Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Ça va être un épisode pointu aujourd'hui. Pointu. Pas plate, pointu. Alors, tout ça commence par un article qu'il y a dans la presse qui dit que là, il y a un affrontement à venir entre une juge de la Cour supérieure et Simon Jolin Barrette, qui est le ministre de la Justice. Concernant un tribunal spécial pour les violences conjugales, donc les violences faites aux femmes. Et puis, cette initiative-là fait suite au MeToo. Donc, c'est intéressant de voir que des fois, les médias sociaux, ça sert, que c'est pas tout le temps juste de la dompe. Parce que MeToo, effectivement, c'est un élan, si tu veux, qui n'aurait pas existé en dehors, alors, avec ses excès puis des histoires de listes sans preuve qui circulent, mais à la rigueur, là, en partant, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce mouvement-là qui fait en sorte que, moi, depuis le début, j'appelle ça a assaini l'air, tu sais. Donc, commençons par la genèse de ça. C'est le mouvement MeToo qui, finalement, a fait en sorte que là, c'est devenu, tu sais, genre, vraiment, il y a une pression populaire et ça s'est rendu jusqu'aux instances gouvernementales. Puis le ministre de la Justice, anciennement de l'immigration, où il n'avait pas fait un gros hit, pour la CAQ. Je vais vous parler de la CAQ aussi tantôt. Là. J'ai quelque chose que j'ai... Il y a un chroniqueur que j'écoutais hier en France qui a dit quelque chose. J'ai fait comme « Wow, ça c'est malade. » En tout cas, je reviens avec ça tantôt. Ça fait que ça a donné après ça lieu à une concertation entre... Ça a été porté ça par quatre filles, si je ne me trompe pas, quatre ministres de quatre... pas quatre ministres, mais quatre députés des quatre partis au Québec. Qui ont dit on se rassemble, même si on a des allégeances différentes, mais on a le même objectif. Il faut que ça arrête là, la violence conjugale, puis des meurtres, puis toutes sortes d'affaires. T'sais. Et puis, donc, dans les propositions qui ont été faites, il y a la création d'un tribunal parallèle. Donc, c'est un tribunal qui, par définition, aurait peut-être une façon de fonctionner différente, un accueil différent, c'est ce qu'on a bien compris qui était problématique. Je pense pas que ça va aller jusqu'à des règles de preuve différentes, mais voilà que s'insurge la Cour en disant, puis je suis pas au fait de toute la précision de ça, puis c'est quelque chose qui se tranche. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, c'est une vision de ça parmi d'autres. C'est vraiment pas je vais tout vous régler ça, là, c'est de même. Là. C'est pas mon habitude d'ailleurs, mais je vais juste vous mettre au parfum de c'est quoi le cœur de cette affaire-là. Donc, la juge en question, qui fait l'objet, entre autres, de l'article dans la presse, elle est signataire là, d'une lettre qui a dit « Écoutez, ça va mettre du trouble. » C'est-à-dire qu'on comprend l'objectif, on le respecte, on l'aime, tout est beau, mais si vous faites passer ça par le système judiciaire, vous allez l'altérer. Donc, en un mot, si vous voulez commencer à jouer avec des règles de preuve, voici à la fin. Encore là, j'ai pas l'expertise requise pour rentrer en disant « c'est ci ou c'est ça ». Mais ce que je peux vous dire... Qui est vraiment intéressant, parce que ça existe partout, puis c'est une tergiversation qui est au cœur de certaines élections. Exemple, tous les populistes à droite, c'est-à-dire Éric Zemmour actuellement, qui fait un tabac dans sa non-campagne présidentielle en France, parce qu'il ne s'est même pas dit ouvertement candidat, mais il est rendu deuxième dans les sondages, c'est incroyable. Genre, en un mois et demi, il est passé de 3% à 17, c'est fou. Donald Trump et Bolsonaro au Brésil. C'est ce qu'on appelle les populistes, là, si tu veux. Bon. Et puis, ces gens-là ont souvent une ritournelle commune que, malheureusement, tous ceux qui sont offusqués de ça, moi, j'accepte ça total, c'est qu'ils disent qu'on est venu dans un gouvernement dit des juges. Alors, je vous fais ça très facile. Les juges sont, pour la plupart du temps, pas nommés. Alors, parfois oui, parfois non, mais la juge en question ici, elle n'a pas été nommée par personne. C'est-à-dire, excusez-moi, je recommence, ne sont pas élus. Donc, il y a certaines législations où les juges sont élus, les juges à Cour supérieure, par exemple, ou bien à Cour suprême ou autre, mais en règle générale, sont nommés par un pouvoir politique. Donc, ils sont pas... N'étant pas élus, on ne peut pas dire qu'ils représentent le peuple, ils représentent les allégeances qu'un ministre, à un moment donné, dans le cas de la Cour suprême, c'est Trudeau, Trump, pour la Cour suprême, rappelez-vous toute l'affaire avec le juge Kavanaugh qui avait des allégations sexuelles contre lui d'agression. Puis lui disait non, 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 puis Trump, il l'a mis pareil. Ça fait qu'il reste que c'est une décision qui n'est pas au sommet de la démocratie, qui est tout le temps l'élection. Tu sais, une élection, un vote, une personne, un vote, c'est un peu ce qu'on pourrait dire qui est l'exercice démocratique ultime. Après ça, tu restes démocratique dans la mesure où quelqu'un qui est élu fait une action. On les nomme pas juste pour les asseoir sur une chaise ou les prendre en peinture. Mais il reste que, tu sais, quand tu veux dire, OK, là, c'est comme ça que ça va être régi en dernière instance, bien, c'est normal de penser que ça va être quelqu'un qui est élu qui va dire, bien, voilà, on fait ça ou on fait ça. Or, dans les systèmes où on applique ce qu'on appelle l'état de droit, donc comme chez nous, bien, au final, une nouvelle loi peut être cassée par les tribunaux. L'exemple qui pourrait arriver, c'est la loi 21 sur le port des signes religieux. Là, vois-tu, le processus de contestation de cette loi-là a commencé. Puis là, ben, on va voir, mais ça se peut que ça parte en cour d'appel, puis ça se peut que ça en aille à Cour suprême, puis que la Cour suprême dirait que ici au Canada, ce type de loi-là est inconstitutionnel, ne correspond pas, ou d'autres raisons, là, mais ne correspond pas au document qui régit le pays en dernier recours de tout, c'est la Constitution du Canada, qui peut se changer. Il y a des mécanismes prévus. Dans certains domaines, quand tu as 2/3 des provinces qui votent pour un changement, qui représentent 50 % et plus de la population, c'est tout prévu. C'est pas genre un bloc de ciment. Mais il reste qu'en dehors du fait de dire on conteste la Constitution elle-même, force est de constater qu'il y a plein de lois qui peuvent être mises de l'avant par un gouvernement qui a été élu majoritairement ou pas, mais dans le cas de la CAQ, majoritairement, là, c'est clairement les Québécois ont majoritairement élu la coalition Avenir Québec, qui gouverne le Québec depuis bientôt 4 ans, les prochaines élections en 2022. Donc, quand ce gouvernement-là dit « nous autres, on a décidé », parce qu'en plus, on l'avait mis bien clair dans « c'est pas une surprise comme le tramway avec Régis Labeaume », c'est un peu bizarre démocratiquement, on peut absolument l'amener comme ça, de dire « veux-tu même dire, toi, comment ça se fait qu'après, des juges vont venir dire non? » Alors, évidemment, n'importe qui est très entiché de l'idée pure de l'état de droit va dire, bien, ça sert exactement à ça, c'est-à-dire à faire en sorte que tout à coup, il n'y a pas un gouvernement majoritaire qui part avec la POC puis qui s'en va à des endroits qui ne correspondent plus à l'idée même du pays. Alors, je le comprends, mais je fais juste dire que c'est un débat constant. Tous ceux qui disent blablabla, état de droit, bien, je veux dire, vous avez une vision qui est très réduite de c'est quoi la démocratie. Vous avez décidé que le droit, c'est toujours mieux que tout. Ben non. Je veux dire, en tout cas, du moins, la conversation, elle a lieu. Qu'est-ce qui est plus important? Que des gens élus amènent des choses puis fassent aller la société d'un côté ou de l'autre? Ou que des gens non élus disent on est les gardiens de la Constitution? Bien, tout ce système-là se tient. C'est pas un contre l'autre, mais il arrive des points de friction. Puis là, bien, il y en a un qui s'en vient, qui va être là-dessus. C'est quand même un peu bizarre, parce que, avouons-le, t'as une cause qui est comme... Qui peut être contre la cause? Puis moi, j'avais expliqué ça à Éric Duhem dans le temps, qu'Éric a toujours été plutôt anti-féministe dans le mouvement, là, pas anti-femme, pas pantoute. D'ailleurs, c'est deux choses à séparer. Puis il m'avait demandé, « Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'idée, tu sais, de vraiment comme une espèce de route parallèle? » Bien, j'ai dit, « Ça a deux grandes vertus. » La première, c'est que manifestement, ça devrait faire en sorte que le procédé est plus simple puis plus efficace. Mais j'ai dit, au-delà de ça, il y a quelque chose que personne ne comprend, c'est que dans toute cette mode-là, entre guillemets, de MeToo puis de déclarer et autres, il y a des filles, des fois, qui peuvent se faire dire, « Hey, t'as été violée, il faut que tu portes plainte et tout. » Puis que là, tout à coup, ça part, puis tout ça prend des proportions qui n'ont aucun sens. Puis la fille, là-dedans, devient elle-même victime d'une espèce de déferlement, là, tu sais, de... Comment je dirais ça? Donc, pas déferlement, c'est même pas un mot, mais... Genre, tu penses que t'as des droits, tu penses qu'il t'est arrivé vraiment de quoi, mais finalement, c'est une exagération. Légalement, il y a pas de situation, etc. Puis t'as du monde qui peuvent être des victimes totalement de... Hey, attends un peu, c'est pas vrai que ça a été une agression ou autre. Donc, s'il y a un système parallèle, bien ça se dit dès le départ. C'est-à-dire que où je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire que la fille qui dit, moi, je veux parler de ce qui m'est arrivé, je pense que j'ai été agressée, je file de même, c'est pas correct, blablabla. Ça se peut que ce soit pas correct pour vrai sur le terrain, mais ça ne veut pas dire que c'est légalement une agression. C'est pas tout le monde qui fait la différence. Donc, si c'est un système parallèle, cette conversation-là va avoir lieu tout de suite, au lieu d'avoir lieu dans une chaumière ou ben pendant un 5 à 7, où t'appelles ta mère est toute « Oh mon Dieu, je le savais, c'est un pas bon. » Tu sais, toutes les conversations, tout ce qui pourrait arriver, qui fait que, dès le départ, un geste mal intentionné, mal fait, mais qui n'est pas nécessairement une agression sexuelle au sens criminel, fait que c'est très bon, cette initiative-là. C'est ça que je veux dire. C'est très, très bon. C'est très bon parce qu'en plus, ça rassemble toutes les parties. Ça fait que c'est excellent. Maintenant, est-ce que la bonne solution, ça va être un tribunal parallèle? Avec, je vous le dis, je ne connais pas assez le dossier. C'est pas ça mon point. Aujourd'hui, je voulais juste vous illustrer que le système judiciaire et le système politique, c'est des choses qui ont été créées dès le départ dans toutes les démocraties pour faire en sorte qu'un pouvoir peut, à quelque part, surveiller l'autre. Mais il reste qu'il y a peut-être un effet de balancier qui est allé une coche trop loin, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des pays complètement qui sont sclérosés, puis qui ne peuvent pas avancer dans le sens d'une majorité qui dirait, puis la majorité peut se tromper, hein? Puis c'est quoi se tromper? Puis bon, voyez-vous, là, on est en pleine philo, là. Mais il reste que de juste dire l'état de droit, c'est épouvantable, c'est un conflit, le ministre n'a pas d'affaire à se pogner avec les juges sont omnipotents. Non. Ces questions-là se posent totalement. Puis tu peux avoir un abus, aussi ironique que ça puisse paraître, un abus de pouvoir juridique. Puis en Suisse, pour terminer là-dessus, ils ont fait un genre d'entre-deux qui est intéressant, mais qui n'est pas parfait. C'est qu'eux autres, ils ont initié les référendums. À partir du moment où tu as 100 000 signatures par des gens qui ont le droit de vote, je le sais, je l'ai étudié récemment, 100 000 signatures que tu vas, des vraies signatures, pas Internet, Facebook, là, tu t'en vas à la mairie, tu signes un registre disant « Moi, je veux qu'il y ait un référendum sur telle question ». Si tu as 100 000 signatures en Suisse de gens qui ont le droit de vote, ça s'en va directement au référendum. Eux autres, ils ont automatisé ça. Ce qui fait en sorte que, sauf exception, la majorité gagne toujours au final en Suisse. Alors après ça, on peut déplorer. Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive? Le droit des minorités, etc. En tout cas, ce que je sache, la Suisse, pas l'Arabie Saoudite, là. Ça fait que c'est un des beaux systèmes, je pense, qui, même s'il n'est pas parfait, est intéressant. C'est-à-dire que tu gardes le système comme il est là. C'est-à-dire que tu as une constitution, tu as des juges qui surveillent ce qui se fait par rapport en lien en disant c'est pour ou contre la constitution, donc c'est valide ou pas. Tu as des gens qui sont élus, qui disent « Hey, nous autres, on a été élus à majorité, les gens veulent de notre programme, on y va, go, on fait une loi, let's go, c'est de même. » Moi, je trouve que tout ça continue à très bien se tenir, sauf des fois comme ce que je vous parle. Mais de rajouter des référendums plus réguliers, je pense qu'on aurait là un équilibre très intéressant. Pas nécessairement différent de celui qu'on a, mais en tout cas, bref. Ça fait que j'espère avoir été clair. Hein? Soyez et blancs, messieurs. Et puis aujourd'hui, ben, plein de podcasts. Je fais mon chef boileur cuit. Je fais mon Patreon que cette fin de semaine, ça a vraiment pardonné. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye.